À force de nous expliquer que Monaco n'est plus adapté à la F1 moderne, on en a oublié que c'est la F1 moderne qui doit s'adapter à son joyau. Ce week-end, Le Rocher nous a offert un saut dans le temps sans gestion de batterie et dépouillé d'aéroactive. Et s'il est toujours impossible d'y doubler le dimanche, on ne juge pas ce rendez-vous singulier comme les 23 autres au calendrier. Monaco est unique parce qu'il nous offre un plaisir différent, magnifiant l'art de la course au temps, magnifiant le pilote et son talent, zigzagant comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, applaudi par la famille Kardashian. Arrêtez de nous dire que Monaco est surcoté, car respecter ce mythe implique avant tout de ne pas être outrancier. Bienvenue pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Valide ton paddock pass, on te pistonne dans le club des vrais passionnés de F1. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau débrief, ce sixième débrief dans cette saison 2026. Et on va parler d'un joyau, du joyau de la Formule 1, de Monaco, la principauté qui a accueilli bien les 22 pilotes et 11 écuries. Et pour parler de tout ça justement, eh bien on va se retourner vers les principaux belligérants. À commencer par monsieur Hamza Rahmani, comment ça va le H?
C'est fou, dans ton intro, je savais que t'allais employer le terme belligérant.
Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, il y avait beaucoup de rang dans l'intro, donc voilà, c'est ça. Monaco nous fait penser à Jean-Louis Moncey, qu'on embrasse bien évidemment.
Tout à fait, ça va?
Ça va toi ou pas?
Très bien.
On rappelle que tu es à quelques jours d'un grand départ aux États-Unis et je tiens à le préciser, tu ne pars pas en vacances là-bas.
C'est ça. On va travailler.
Il part faire des coupes de cheveux tous les 2-3 jours, il paraît.
Exactement.
Il va au frais de la princesse.
Ah, les coupes de cheveux pour la plus belle des coupes du monde. Suivez Hamza Rahmani, ça se passe sur M6. Ça, c'est pas le groupe RMC, hein, je tiens à le préciser.
Waouh,
mais,
la glissade.
Mais, franchement, voilà, on sera tous derrière notre écran pour suivre Hamza. Et RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, les amis.
Ah,
c'est
pour voilà, ça. Ah, c'est voilà, ça. Voilà, quand c'est même, faisons le lien. Il va se passer des choses.
Je voulais citer les diffuseurs, bien sûr, en France. Monsieur Despiello, Pierrot Despiello, comment ça va, mon Pierrot?
Ça va très bien. Écoute, j'ai passé un bon Grand Prix de Monaco. J'étais au frais chez moi. Je me suis pris un regard de Fred Vasseur en plein dans la gueule en caméra. Il m'a fait sentir vraiment tout petit. Pourtant, il était à plus de 800 km. Donc, j'ai passé un bon Grand Prix. Je suis heureux. Et heureux de prendre la relève de Brice Germain. Donc, je vais essayer de me faire aussi de transmettre son avis, puisqu'on l'a eu hier pour préparer l'émission, notamment au travers de George Russell. Voilà.
On l'embrasse, Brice Germain. J'ai dit tout à l'heure, Monaco n'est plus adapté à la F1, mais il faut peut-être se poser la question que la F1 moderne doit être adaptée à Monaco. Cette phrase est de Brice Germain, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les gars, je disais tout à l'heure justement dans ce petit édito, un plaisir différent, mais quel plaisir! Une belle édition. Alors vous allez me dire, je suis toujours positif quand j'ouvre l'émission. Oh là, à chaque fois, on a vécu un bon Grand Prix. Mais là, franchement, ce week-end a été tout à fait particulier. On se posait la question de savoir si on allait se régaler. Je vous pose la question à vous, mais honnêtement, on a pris du plaisir.
Là, il s'est pas régalé, Hamza.
Non, mais très sincèrement, moi, j'ai eu une excitation, un pic d'excitation au moment, alors pas de l'accident de Stroll, mais au moment de la relance, parce que je savais que on allait avoir. Puis il y a eu l'accident de Leclerc, et donc là, départ arrêté. Donc là, sur une sorte de course sprint de 10-12 tours, effectivement, il y a une excitation qui est assez élevée jusqu'au départ, et tu vois qu'Antonelli reste devant Hamilton sans trembler. Mais très sincèrement, sur le reste du Grand Prix, c'est du Monaco, quoi. On a eu quelques dépassements. Moi, j'ai en tête le dépassement de Lindblad, mais qui, alors oui, qui est magnifique, mais qui survient ensuite à une erreur d'Alex Albon. Et en fait, c'est toujours pareil. Les rares dépassements que l'on a, c'est souvent à cause d'une erreur d'un pilote. Et c'est aussi ça le sel de la Formule 1 à Monaco. Maintenant, sur l'ensemble du Grand Prix, non, je ne me suis pas régalé.
Plus de pénalités que de dépassements, nous dit Brian, notre chef d'édition.
C'est vrai que c'est un peu la difficile. Hein.
Quand on juge Monaco, on ne juge pas qu'au dimanche, les gars. On l'a souvent dit sur ce plateau. C'est sur l'ensemble du week-end. Et le plaisir est différent parce qu'on regarde, enfin, on vit les choses de manière différente, notamment le samedi.
Ah, bah, le samedi, ça a été le grand show, comme d'habitude, avec des pilotes qui vont toujours chercher encore plus loin la limite. Et on se dit, non, mais c'est pas possible. Ils arrivent à écarter les rails encore plus que ce qu'ils ne l'étaient vraiment. On a eu une belle fin de qualification. Dommage que Charles Leclerc mette la voiture au tas, entre guillemets, ou fasse l'erreur dans le bureau de tabac, parce qu'il était sur les mini-secteurs, il était en violet sur le deuxième secteur, je crois, ou en tout cas en vert. Donc il jouait la pole, et ça aurait été différent, peut-être, son dimanche. Quoique, au vu des problèmes qu'il a rencontrés, peut-être pas, finalement. Mais non, effectivement, comme le disait Hamza, Monaco, ça reste un joyau. Et en plus de ça, moi, je suis parti du principe aussi, pour l'avoir vécu en direct avec des des abonnés depuis mon petit studio. Moi, je regardais surtout tout ce qui était stratégique parce que finalement, il n'y a que ça à regarder. Et quand tu regardes la track map et que tu essaies d'anticiper un peu les moves des uns et des autres, bah, tu ne vis pas forcément le même Monaco que effectivement d'attendre et t'endormir en mode quand est-ce qu'il se passe quelque chose de visuel en piste.
On va parler de l'aspect stratégique quand on évoquera Ferrari, mais puisque tu évoques l'aspect stratégique, moi, il y a toujours ces stratégies extrêmes que je valorise. Les pilotes, je crois que c'était Bottas et Berman qui s'arrêtent au premier tour. À ce moment-là, c'est un peu les stratégies F1 2000 et quelques, le jeu vidéo. À Monaco, tu t'arrêtes au premier tour, t'as le clean air, tu remontes, sauf qu'en fait, peut-être les 10 derniers se sont tous arrêtés les uns après les autres, justement en anticipant le fait que finalement, même en termes stratégiques, je trouve qu'on n'a pas été forcément régalé par... On n'a pas eu énormément...
Non, moins que d'habitude,
Blade,
je pense.
Qui, à un moment, il a été le grand bénéficiaire du drapeau rouge. Il a peut-être attendu jusqu'au bout une safety car, mais sinon, même sur l'aspect stratégique, c'était pas non plus exceptionnel, quoi.
Exactement. On va rentrer justement dans le vif et vous remémorer déjà les résultats de cette course. On l'a dit, sixième manche de cette saison 2026 avec la cinquième victoire consécutive pour monsieur Andrea Kimi Antonelli qui devance Hamilton qui monte sur la deuxième marche pour la deuxième fois consécutive après Montréal. Isaac Hadjar, premier podium pour Isaac Hadjar chez Red Bull, premier podium d'un Français dans cette écurie. Oscar Piastri termine quatrième, cinquième place et sixième place pour les deux Racing Bull, Liam Lawson et Arvid Lindblad. Ils n'avaient pas connu un aussi beau résultat dans cette écurie depuis 2021. Pierre Gasly a passé la ligne troisième mais a été pénalisé. Il termine finalement septième. Alex Albon prend la huitième place. Esteban Ocon profite de remonter justement dans ce classement et profite surtout de la pénalité de Hülkenberg pour prendre deux points importants. Trois Français quand même dans ce top 10, on y reviendra. Et puis la dixième place, elle n'est malheureusement pas pour Sergio Perez qui a pris lui aussi une pénalité après la course. C'est Fernando Alonso qui inscrit le premier point d'Aston Martin. Ça, c'est l'énorme surprise. Les gars, on n'en parlera pas tout à l'heure, mais je le disais, petit coup de chapeau quand même à Liam Lawson, sacrément régulier dans ce début de saison. Lindblad, on en avait parlé, c'est le rookie, le seul rookie, mais quelle belle sensation. Et mine de rien, Racing Bull qui rentre à son meilleur résultat depuis 2021, qui rentre de gros points. Et c'est vrai que cette écurie est assez discrète, mais ces deux pilotes, franchement, sont assez impressionnants. Quatre arrivées sur six dans les points pour monsieur Liam Lawson, notamment.
Ça fait parler le début d'expérience qui commence à avoir finalement en Formule 1. Donc c'est bien joué de sa part. À Monaco, faut être bien positionné au bon moment, faut prendre les bonnes décisions. Il a surtout fait bien le travail de samedi en qualif, puisqu'il se retrouve en Q3. Donc c'est le seul avec c'était Pierre Gasly aussi qui était en Q3.
Oui,
donc
exactement.
C'est pas rien. Et puis la Racing Bull, elle fonctionne bien aussi. On l'a vu aux mains de Arvid Lindblad sur tout le début de saison. Donc mérité, et ils ont bénéficié des problèmes des autres. Fallait faire attention à la voie des stands notamment, donc bravo.
Ils ont fait sauter le bouchon aussi Hamza, parce que tu parlais de stratégie tout à l'heure, il y en a une qui a été audacieuse du côté de chez Williams.
Ouais, c'est la stratégie que l'on a vue l'année dernière avec l'obligation des deux arrêts qui n'étaient pas valables donc pour cette année 2026. Et effectivement, à partir du moment où chez Williams on a tenté, on l'a senti à la frustration sur la radio de Lindblad, mais à partir du moment où Lindblad a réussi à faire sauter le bouchon, c'était Alex Albon du coup, parce que le but c'était de créer un écart pour que Carlos Sainz s'arrête, ressorte devant lui, ensuite on inverse les positions chez Williams. Ils ont réussi justement à se retrouver devant. Alors oui, comme tu le disais Pierrot, ils ont bénéficié quand même de beaucoup d'abandon. Je crois qu'il y a quatre pilotes qui abandonne, qui normalement aurait dû finir devant les deux Racing Bulls, mais mine de rien, il faut répondre présent. Ils ne font pas partie des pilotes qui ont été touchés du grabuge, notamment sur la fin de course. Ils ont réussi à s'en sortir et il y a simplement à valoriser le travail sur l'ensemble du week-end.
Exactement. Grosse moisson de points donc pour Racing Bull, mais comme vous le savez, on n'en parlera pas parce qu'on vient d'en parler. Les quatre enseignements, on les découvre ensemble. Attention, préparez-vous, ça va être chaud. Le programme est très chargé. On va parler d'un bleu qui rit et d'un bleu qui pleure. Le bleu qui rit, c'est Isaac Hadjar, son premier podium, pas en Formule 1, mais avec Red Bull. Le bleu qui pleure, c'est Pierre Gasly effondré à l'arrivée de cette course. On essaiera de comprendre justement si sa pénalité était justifiée. Antonelli en petit prince et quelque part presque une surprise. Est-ce que vous attendiez, messieurs, une Mercedes qui aille aussi vite? L'une des deux, parce que vous allez le voir, Russell a eu encore quelques soucis. Leclerc qui prolonge sans frein. Il y a deux informations dans ce titre. Oui, il prolonge son contrat chez Ferrari et oui, il n'avait pas de frein vraisemblablement tout au long de ce week-end et notamment dimanche. Ça lui a coûté très très cher. Et puis on viendra sur le rêve brisé de Cadillac et de Pérez. Et ce point, franchement, auquel personne ne s'attendait pour Fernando Alonso et Aston Martin. Vous n'oubliez pas de commenter cette émission, bien sûr. Eh bien, au moment où vous la regardez, nous, on vous lira et on continuera l'ensemble, bien sûr, de ces discussions et de ces débats avec vous. N'oubliez pas de vous abonner également à RMC Sport et n'oubliez pas de vous abonner à Paddock, à RMC Paddock. RMC Paddock Pass, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. Premier enseignement, les gars. Cocorico, parlons des Français. Isaac Adjarkiri, Pierre Gasly qui pleure. Nos Français, prince de la ville, prince de la principauté. Trois Français dans le top 10, c'est une première depuis 8 ans. Adjar 3e, Gasly 7e et on l'a dit, Esteban Ocon 9e. La France qui n'est plus connue, trois Français dans les points depuis le Grand Prix de Belgique 2018. Alors on a eu un Gasly dégoûté et ce podium volé. On va parler de ces deux pénalités qui privent le pilote alpine d'un podium pourtant mérité. Ocon nous a refait le coup de l'an dernier. On touchera bien évidemment un mot sur sa course qui, grâce à une stratégie audacieuse, un arrêt anticipé, a réussi à accrocher justement deux gros points. Mais ouvrons tout de suite sur Isaac Adjar, le premier podium d'un Français donc chez Red Bull. Red Bull, l'une des belles surprises à noter eh bien, de ce week-end, un superbe rythme. Deux voitures notamment qualifiées dans le top 6 hein, en Q3, dans le top 5 même. Une course en enfer entre problèmes techniques, menaces de pénalité à répétition. Il aura su résister à Russell. Il s'est surtout montré tout au long de ce week-end résilient. On repense à son crash, notamment en essai libre 1. Et finalement, il arrive à accrocher, eh bien, on l'a dit, son premier podium pour son 6e Grand Prix chez Red Bull. Les gars, un long chemin de croix, mais à l'arrivée, quelle performance d'Isaac Adjar.
Ça fait penser un peu à la perf de Ricardo il y a quelques années quand il avait remporté le Grand Prix. C'était en 2018 de mémoire où il avait eu un problème d'hybride.
Ouais. Oui.
Problème d'hybride, je crois. Et effectivement, bah, là, Isaac, quasiment toute la durée du Grand Prix, il se retrouve avec des problèmes de moteur. On a essayé de bosser dessus finalement. On a réinversé pour que la voiture soit exactement en l'état puisqu'on n'a pas le droit de travailler dessus pendant un drapeau rouge. Et il a réussi à tenir Piastri en fin de course sur la distance pour prendre le podium alors qu'il avait effectivement une sanction qui pouvait lui tomber dessus. Sans compter que, et c'est Gaëtan Gecko, encore une fois l'ingénieur de Carlos Sainz chez Williams qui disait pour dépasser à Monaco, il faut 3 secondes de performance d'écart entre les voitures, ce qui est absolument abyssal. Donc effectivement, quand tu as un problème à Monaco en particulier, t'as quand même, les voitures sont encore suffisamment larges pour être vraiment bien et pas dépassées. Donc bravo à Isaac Adjar d'avoir réussi à emmener tout ça jusqu'au bout et d'avoir pas forcément gardé son calme, mais de pas avoir planté la voiture alors qu'il était énervé.
Sur ce thème-là, moi je repense à une ITV qu'on avait fait avec Isaac il y a quoi, peut-être 2 ans de cela, sur sa deuxième année de Formule 2, où on lui a posé la question. Et il avait répondu: à Monaco, si je ne veux pas que tu passes, tu ne passes pas même sur 3 roues. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Tu évoquais effectivement.
Ça passera dans le port. Hein.
Voilà, tu évoquais effectivement la victoire de Daniel Ricciardo il y a quelques années. Je crois que c'était une boîte de vitesse, problème de boîte de vitesse.
Ah, dans ma tête, c'était problème d'hybride. Mais peut-être
que c'est la boîte aussi. Ah, okay,
peu importe. Mais bon, en fait, on a eu par le passé des pilotes qui, avec des problèmes qui auraient pu être terminaux sur tous les autres circuits de la saison, ont réussi à conserver leur avantage, même face à une voiture. Tu évoquais le gap de 3 secondes. Finalement, il y a une seule zone où tu dois défendre cette potentielle différence de vitesse. Et finalement, il a réussi à s'en sortir. Il y avait juste, entre guillemets, les instants clés de la course à gérer, en l'occurrence le départ, en l'occurrence l'undercut que tu subis de George Russell, et il a essayé sur le tour suivant de faire le gros tour pour ressortir devant et ça n'a pas marché, et puis les moments de safety car puis de drapeau rouge, pareil, on a vu le départ manqué. Et finalement, heureusement que les pilotes devant avaient une pénalité à purger, mais sur l'ensemble du week-end, je pense que c'est une course qui va aussi construire le Isaac Adjar pilote, parce que c'est finalement une partie, une facette que tous les pilotes ne peuvent pas forcément découvrir quand tu es à Monaco. Et avoir la concentration extrême sur quoi, c'est une cinquantaine de tours, soixantaine de tours, cette concentration extrême, tout en sachant que tu n'as pas le droit à la faute, parce qu'en plus, tu as des voitures plus rapides derrière, parce qu'en plus, toi, tu as ces problèmes-là. Donc, t'es dans l'obligation finalement de réaliser la course parfaite sur 50 tours, ne pas aller toucher le rail, mais en même temps essayer de maximiser les trajectoires pour garder un maximum de vitesse. Voilà, je trouve que c'est une palette de Isaac qu'on n'avait peut-être pas forcément encore vue parce que justement les circonstances l'amènent à Monaco, et c'est globalement positif d'aller chercher ce premier podium dans ces circonstances, et un premier podium chez Red Bull. Ouais. Donc
premier podium d'un Français chez Red Bull. Bah, il y avait que Pierre Gasly aussi avant.
C'est
mais...
vrai.
Ouais.
Et mais quand même.
Et moi j'ai une stat encore plus plus parlante. Ah. C'est le premier podium d'un pilote numéro 2 chez Red Bull sur les 49 dernières courses.
Travache. C'est impressionnant.
49 dernières courses.
Du coup, c'est
sans que le coéquipier de Max Verstappen
n'ait fait podium.
Ok, donc c'était Perez la dernière fois qui est monté sur le podium en numéro 2. C'était ni Lawson ni.
C'était Perez. Ouais, c'était Perez.
Ok,
ouais. Effectivement.
Okay. On rappelle que d'ailleurs, dans cette bataille, vous en avez parlé, les gars, dans cette bataille avec Russell, juste avant de se faire undercutter, justement, il accuse à ce moment-là un handicap de 2 secondes par tour, hein, ouais. Notamment sur la fin, avant qu'il passe par les stands.
C'est simple, il était plus lent que le top 15. Ouais, c'était le plus lent du top 15. Il fallait retomber aux 2 Aston Martin, d'Alonso exactement. Et Stroll, pour voir un pilote plus lent qu'Isaac Hadjar. Il prenait, je crois, 2 secondes et demie par Antonelli au tour.
Ça en dit long sur l'handicap. Et les problèmes qu'il a pu connaître. Isaac, il disait justement hier en conférence de presse, aux côtés de Lewis Hamilton, son idole, et aux côtés d'André Hakimi Antonelli, eh bien avec qui il se fight, entre guillemets, eh bien depuis très très longtemps, il dit « On a fait un départ propre et dans les 10 ou 15 premiers tours, j'ai eu des soucis de maniabilité. Et s'il y a un circuit où l'on ne veut pas ça, pardon, c'est ici. C'était un vrai défi de tenir 60 tours comme ça. Et à la fin, je manquais en plus de puissance. C'est devenu inconduisible à un moment. J'avais de gros problèmes avec le frein moteur. » Je ne pouvais pas utiliser les rapports courts. Ça montre quand même, c'est vrai, à Monaco, quand ils listent ces problèmes-là, ça fait beaucoup de problèmes. Ouais, ça fait beaucoup de problèmes, mais ça rajoute bien sûr à l'impression laissée. T'as commencé à en parler, Hamza, et c'est là-dessus que je vais vous relancer, les gars. Il est important ce podium pour la suite, pour la confiance qu'il va forcément en tirer après cette prestation, et par le message aussi quelque part qu'il envoie, parce que on a une Red Bull qui a marché ce week-end avec les deux pilotes, et quand Max n'est pas là. Ben Isaac Hadjar rentre des points et monte sur la boîte.
Bah ça c'est, moi j'allais dire que c'est un week-end référence ou un début, enfin comment dire, c'est un premier week-end référence pour Isaac Hadjar chez Red Bull, dans le sens où il plante quand même la voiture en FP1 sur le fait qu'il prenne peut-être pas assez large et qu'il rentre avec un peu trop de vitesse justement dans les S de la piscine.
Juste, pardon, te couper sur ce point-là. Faut savoir qu'à Monaco, en essai libre. Chaque tour, tu accumules un tout petit peu plus de confiance.
Exactement.
C'est un tour après
exactement.
Tour. C'est ton capital. Donc, le but, c'est d'aller atteindre le 100% sans jamais le toucher. Contrairement aux autres où tu peux te permettre un 102%, c'est pas grave. Là, le 100%, faut pas le toucher, sinon ça veut dire que tu flirtes, que tu touches le rail de sécurité. Donc, 80%, 81%, 82%, tour après tour. Par contre, le moment où tu te crashes,
zéro.
Ça retombe à zéro.
Ouais.
Et tu
retombe
reprends
à moins
tout. Oui, peut-être même. Et tu reprends tout depuis le début. Donc, lorsque tu es en plus un jeune pilote, deuxième année en Formule 1, chez Red Bull, première année chez Red Bull.
Ton coéquipier, c'est Max Verstappen.
Même si Monaco, historiquement, Isaac, il a gagné en Freca, en Formule 2, il doit gagner la course, il n'y a pas ce problème en toute fin de course, d'incompréhension avec son équipe sur le rythme de course. Et la saison dernière, il fait aussi une grosse performance. Donc, malgré tout ça, quoi qu'il arrive, n'importe quel pilote qui se retrouve à Monaco à planter sa voiture en essai libre, t'as un travail psychologique et mental à faire qui est assez colossal. Ouais,
je suis complètement d'accord. C'est ce que j'allais dire. Donc, parfait.
Excuse-moi.
C'est qu'on est d'accord. Ça va compter pour la suite. En tout cas, ça lance parfaitement les hostilités pour Isaac.
C'est ça. Je pense que tu voulais aller aussi sur l'ensemble du week-end.
Sur l'ensemble du week-end, oui, bien sûr.
La performance de la qualif.
La performance de la qualif, elle est là. Et c'est là où, en fait, pour le moment, c'est un premier week-end référence. Maintenant, il faut les multiplier tout au long de la saison pour dire oui, effectivement, quand Max Verstappen, et on l'a reproché un nombre de fois incalculable au coéquipier de Verstappen ou même à Bottas quand il était chez Mercedes, quand il y a le numéro 1 qui est pas là, qui a des problèmes pour X ou Y raison, le numéro 2 doit être là. Et en fait, ce qui était hyper intéressant et ce qui aurait pu être méga intéressant, c'est que si Verstappen avait pris correctement son départ, avait pas eu de problème, Red Bull aurait eu 2 voitures à jouer comme Ferrari contre Kimi Antonelli, avec un Russell qui était un peu plus derrière, où c'était peut-être un peu plus tendu. Donc ça aurait peut-être changé un peu la physionomie de la course. Et là, pour le coup, Hadjar s'est quand même très bien débrouillé sans Verstappen, mais ça fait effectivement un deuxième pilote sur lequel on peut compter. Donc maintenant, il va falloir avoir d'autres week-ends références comme ça sur la suite. Essayer de toujours recoller un peu à Verstappen. Effectivement, j'ai pas l'écart qu'il a en qualif avec Verstappen, Hadjar. Peut-être que Hamza va réussir à le trouver, mais
3 dixièmes et demi.
3 dixièmes et demi, je trouve qu'à Monaco, quand t'es chez Red Bull, quand t'as planté la caisse en FP1 et que on a quand même 3 garçons, parce que je vais mettre Leclerc dedans, qui sont capables de pousser les rails pour aller chercher encore des millièmes, être à 3 dixièmes et demi, c'est quand même pas dégueulasse, mm-hmm. vraiment.
Surtout face à Verstappen, qui est capable, lui, parce qu'il est face à pousser les rails, mais de les écarter.
De les écarter.
Rappelez-vous de la pole position face à Fernando Alonso il y a 2-3 ans.
Il y a 2-3 pilotes qui ont essayé de pousser le rail un peu trop loin, qui s'appellent Charles Leclerc et Max Verstappen il y a quelques années. Bon, ça s'est pas forcément bien passé.
Après les réjouissances, les gars, concernant Isaac Hadjar, parlons du cas Pierre Gasly. C'est, on a dit, un Français qui rit, un Français qui pleure. Il a passé la ligne à la 3e place, Pierre Gasly. Mais il a dû purger 2 pénalités pour excès de vitesse dans la pit lane et finalement il est reclassé 7e. On a décidé de prendre le temps justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi il a été pénalisé et surtout devait-il être pénalisé, est-ce que cette pénalité est juste. Comme Pierre Gasly, 5 pilotes se sont fait prendre en excès de vitesse dans la pit lane. Alors c'est une vague étonnante et quasiment inhabituelle de pénalités qui s'est abattue sur Monaco, privant notamment notre Français de son podium, Russell 2 points et donnant des surfroids notamment à Hamilton, Piastri et Colapinto. C'est une originalité pourtant déjà entrevue vendredi lors des essais avec 4 pilotes qui avaient été pris, les gars, en flagrant délit, dont les 2 Mercedes, dont Albon, dont Alonso. Comment, la question qu'on se pose à partir de là, c'est comment à un niveau aussi élevé de compétition, un quart des pilotes de la grille ont pu tomber dans ce piège et commettre une telle infraction. Alors l'objet du litige qui concentre toutes les attentions ce lundi, c'est l'outil de mesure qui permet justement à la FIA de contrôler la vitesse dans la voie des stands et on va regarder justement avec ce petit schéma pour mieux comprendre. En fait, la vitesse en pit lane n'est pas calculée grâce à un radar classique comme les radars automatiques ou mobiles.
Ceux qui mettent les amendes.
Voilà, que vous connaissez notamment et bien sur la route, mais par des boucles de chronométrage électronique, c'est-à-dire plus simplement des radars de tronçons. C'est-à-dire qu'en fait, on calcule le temps passé par un pilote entre un point A et un point B et on le divise par la distance, ce qui nous donne la mesure officielle de la vitesse. Donc là, vous voyez sur les deux schémas, on a la distance théorique voulue par la FIA dans cette pit lane, incarnée par la trajectoire et les flèches en jaune. Et vous avez bien ce point A et B. On chronomètre le temps de passage et derrière, on le met en rapport de la distance déjà établie, distance théorique de cette trajectoire témoin, pour avoir la vitesse. On verra un petit peu plus tard sur justement la trajectoire de Pierre Gasly et des 4 autres pilotes qui était un petit peu différente. En fait, Ce qu'il faut bien voir là, c'est que le seul souci qu'on voit bien sur ces deux trajectoires différentes, c'est qu'en fait, avec la réfection de la pit lane à Monaco, pour aménager notamment le 11e box de Cadillac, le tracé a été quelque peu modifié, notamment au niveau de l'entrée, donc le premier virage, et notamment au niveau de la sortie, le dernier virage, où il est désormais aisé de couper la ligne pour gagner du temps. Les 5 pilotes sanctionnés, comme Pierre Gasly sur la droite, l'ont fait, ce qui n'est pas interdit par le règlement de la FIA. Par contre, cela fausse complètement le calcul des boucles de chronométrage. En coupant la trajectoire, comme l'a fait Gasly sur la droite du schéma, ils ont parcouru moins de distance que la trajectoire témoin définie par la FIA qui se trouve à gauche. Et du coup, cela induit un biais, on va dire, dans le calcul des cellules qui pensent que le pilote incriminé a parcouru cette distance plus rapidement. Là, c'est avec le schéma. On va se remettre dans la voiture de Pierre Gasly pour tout vous expliquer et que vous compreniez définitivement bien les choses. On est au tour numéro 46. Pierre Gasly, à ce moment-là, procède à son deuxième arrêt. Pour ne pas être pénalisé une deuxième fois après sa première mésaventure, il enclenche le pit limiteur très tôt, bien avant la ligne qui oblige à ne pas dépasser les 60 km/h. Son limitateur est d'ailleurs réglé avec une marge de précaution à 59,5 km/h. Impossible dès lors qu'il puisse se retrouver en excès de vitesse. Sur le cliché suivant, une fois qu'il a passé la ligne, on se rend compte justement qu'on voit qu'il peut facilement couper la trajectoire de ce virage à gauche. En coupant la ligne, les pilotes essaient de faire moins de distance pour forcément gagner du temps. Sur le cliché suivant, on voit que c'est ce que fait justement Pierre Gasly. Vous voyez sa roue à droite qui est complètement en dehors de la ligne. Rien ne lui interdit de mettre ses roues en dehors de cette ligne blanche. Il trace tout droit, mais cela induit justement ce premier biais, puisqu'il a parcouru moins de distance que prévu par l'outil de mesure de la FIA. Le radar de tronçon le pense en excès de vitesse. Même chose, vous allez voir sur la sortie de la pit lane. À ce moment-là, il a changé ses pneus, il sort de son emplacement, il repart et l'image de la voiture qui le précède juste devant, il va couper la ligne devant lui. Là, à ce moment-là, vous allez voir sur le dernier cliché, c'est le deuxième biais. Le gain est minime, mais là encore une fois, Gasly parcourt moins de distance que celle estimée par la FIA en suivant la signalétique au sol. En additionnant ces deux biais, l'outil de calcul de la FIA estime un excès de vitesse globale de 0,4 km/h. Pour les mêmes raisons, il avait déjà été sanctionné de 5 secondes de pénalité lors de son premier passage au stand où l'excès de vitesse théorique avait été calculé à 0,1 km/h. 24 heures. Pour vous donner quand même la suite des faits, Alpine a porté réclamation en usant de son droit de révision, en fournissant notamment les informations enregistrées dans le transpondeur de la voiture de Gasly. Celui-ci indiquerait bien que le pilote français n'a pas dépassé les 60 km/h lors de son passage à la pit lane. Oui, mais on a un problème, les gars. Russell et Hamilton ont été pénalisés pour les mêmes raisons, ont purgé leurs sanctions pendant la course. Donc, redonner la troisième place à Gasly induirait un manque de constance et pourrait surtout remettre en doute la légitimité de ce classement. Ainsi, il y a donc fort à parier que le Français n'aura pas gain de cause, d'autant que la direction de course aurait donné des consignes concernant cette problématique dans le calcul de la vitesse, notamment lors du briefing d'avant-course. Pourtant, in fine, Pierre Gasly, si on s'en réfère à tout ce qu'on vient de dire, eh bien, se voit privé d'un podium sans avoir, semble-t-il, commis réellement d'infraction. Votre avis sur cette affaire, les gars ?
Bah, c'est dommage d'avoir des mesures qui ne sont pas bonnes. En fait, si on a déjà la mesure de la vitesse de la voiture en transpondeur, autant l'utiliser. Et je comprends qu'il faille des mesures par la FIA, autre que par le transpondeur de la voiture qui peut être faussé, hashtag débit de carburant de Ferrari par exemple, mais ce serait bien effectivement d'avoir une constance là-dessus. Voilà, c'est pas anodin à Monaco. Depuis la nuit des temps, on coupe à l'entrée, notamment sur le gauche, pour essayer de se ménager un petit peu d'espace et ce genre de choses. Effectivement, le fait qu'il y ait Cadillac qui soit là cette année fait qu'on a encore un gauche-droite un petit peu plus prononcé à la sortie, donc voilà. Et je suis complètement d'accord, effectivement, le directeur de course avait bien prévenu en amont de faire attention à ce genre de choses. Je crois qu'il y a d'autres pilotes qui ont, du coup, ont pas été sanctionnés, qui prenaient justement correctement, entre guillemets, le virage pour pas avoir ce genre de problème. Maintenant, ouais, effectivement, c'est dommage, mais on peut pas changer le... Il y a eu trop de pénalités. Certains l'ont servi, d'autres l'ont servi après la course, etc. On peut plus modifier, en fait. Là, sinon, ça refait le boxon. Autant refaire un Grand Prix de Monaco directement, ça ira plus vite.
Et pourtant, Gasly méritait ce podium, Hamza.
Ouais, franchement, c'est terriblement cruel de perdre un podium ou même un résultat, en fait, de cette manière. Parce que là, on parle de Gasly, Russell, c'est pareil. Mm-hmm. Donc, ouais. Finalement, on a des pilotes qui n'ont rien fait d'illégal. C'est ça le pire, c'est que la règle n'a pas été pas respectée par les pilotes. Parce
c'est
que
comme le taux de compression de Mercedes, au final.
Maximiser l'entrée... C'est quelque chose qui n'est pas. Enfin, maximiser l'entrée en réduisant la distance, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Cependant, lorsqu'on te dit, effectivement, et c'est la FIA, enfin, la direction de course peut aussi se réfugier derrière ça, à partir du moment où la direction de course a dit avant la course que, effectivement, faites attention, on vous conseille de prendre une trajectoire un petit peu plus large. Sauf que, un pilote de course, depuis la nuit des temps,
depuis qu'il
a 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est construit, son cerveau est construit de manière à aller le plus vite possible en parcourant la distance la moins élevée possible, justement pour aller le plus vite possible. Donc, forcément, je pense que c'est naturel, parce que là, Gasly, tu le disais, c'est pas le seul. Il y a un quart des pilotes. T'as Colapinto, t'as Piastri, t'as Russell, t'as... Je pense que c'est naturel pour un pilote. On peut pas en vouloir à un pilote. Maintenant, je trouve effectivement ridicule cette sanction. Mais à partir du moment où elle a été purgée par certains pilotes, tu ne peux pas revenir dessus.
Clairement. En fait, l'énorme problème de tout ça, les amis, c'est que en fait, c'est un problème de contrôle de la vitesse. On l'a bien compris, c'est un problème de contrôle de la vitesse et pas un problème de ils n'ont pas respecté la règle, comme vous l'avez dit. Et moi, ce que je reprocherais, si je pouvais me permettre de donner une leçon, parce qu'on n'est pas dans les instances et le travail des instances est compliqué, mais c'est le millefeuille aussi. C'est pourquoi t'autorises à couper la ligne si tu sais que en coupant la ligne, ça va induire un biais justement dans le calcul de cette vitesse. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Tu dis, si tu coupes la ligne, t'es pénalisé. Et comme ça, en fait, on n'en parle plus et tout le monde respecte justement ce petit chemin au sein de la pit lane.
N'hésite pas à proposer ta candidature à la présidence de la FIA d'ici 4 ans. Hein.
J'ai déjà trop de boulot. J'ai déjà beaucoup trop de boulot en ce moment, les gars.
Et l'image de Gasly à l'arrivée, franchement, elle est
c'est
horrible.
Incroyable.
Alors, sur tout le tour,
en fait, quand il arrive en haut de la montée d'Ostende, il manque déjà d'encastrer Hamilton parce qu'il arrive pleine vitesse quand même. Et puis il fait ouais, je suis P3. Et puis on lui dit wait, et après on n'a pas les autres radios, parce que
radio,
je pense qu'il y a quand même d'autres radios, donc il est en train de célébrer. Canal Plus a dit qu'il célébrait de manière ironique.
Oui, Canal a dit ça, je pense qu'il doit avoir l'info. Hein.
Je pense quand même qu'après après le drapeau rouge, où on le voit énervé, etc., et que bon, il sait qu'il a des pénalités. J'ai quand même un doute sur le fait qu'on lui ait dit non, mais c'est bon, on n'a plus de pénalité maintenant, c'est fini. Et donc il se retrouve à célébrer pendant tout le tour, il se gare, et après, effectivement, on le sent peut-être un peu plus énervé.
Peut-être qu'il a juste oublié.
Bah non, quand même pas.
Non, je pense qu'avec
non, mais la célébration ironique pour moi, non, la célébration ironique pour moi, c'est
non, c'est pipo, on est d'accord.
Ah, tu penses que c'est inenvisageable?
Bien sûr que c'est inenvisageable. Bien sûr, c'est... Non, tu vas pas célébrer pendant tout un tour. Ouais, youpi, j'ai gagné,
non,
j'ai
mais
fait
deux fois. Après, on a le gars est casqué, le gars est
il est pas au courant. Il y a un problème de communication.
C'est soit il n'est
non, soit il n'est pour moi, c'est soit il n'est pas au courant, soit il a oublié. Mais la célébration de manière ironique pour moi, c'est ubuesque.
C'est trop. C'est loufoque. Faut qu'il aille à Hollywood à un moment donné. Il y a un Oscar qui l'attend.
Et quand tu vois sa réaction lorsqu'il arrive au drapeau, c'est tu vois à quel point le visage est fermé, le
visage est fermé. Je pense qu'il faisait pas de l'ironie dans la bagnole.
Bah oui, non mais c'est pas possible.
Chose à faire.
Regardez Pierre... ironique. Non mais on est où là?
Regardez Pierre Gasly qui a déclaré à Sky Sports F1 : je suis anéanti, je n'ai pas les mots, j'ai trop d'émotions à gérer pour le moment. Honnêtement, cela ne semble pas juste. Franchement, quand t'es pilote alpine, que t'as la possibilité de faire un podium avec à Monaco. Enfin, c'est quand même. C'est vrai que.
Voilà. Non mais t'as envie de tout fracasser parce qu'il fait une très belle course, Pierre. Mmh. Au final, il fait une très belle course. Bon, il prend quand même ses pénalités dans la voie des stands, mais il fait une très belle course, il fait pas d'erreur, il a quand même du rythme, il arrive à tenir un Norris qui a un problème, puis qui a pas de problème, qui finalement a encore un problème. Enfin, je veux dire, oui, on a vu que l'Alpine n'était pas au niveau des top teams, mais au final, fallait bien se qualifier, fallait bien remonter, enfin bien se positionner, surtout au départ où il arrive à s'intercaler entre les deux McLaren. Et bravo parce que ça aussi, il y a eu une petite maestria sur le positionnement, sainte des votes, la montée, etc. Donc bravo, franchement, voilà. Mais c'est pas mérité de faire P7 au lieu de P3.
Quoi. Non, mais le regret, c'est qu'il prend plus deux fois la même pénalité.
Non, mais c'est ça qui est terrible.
Oui, la frustration, non,
bien
pense,
sûr. Alors qu'il fait tout bien, il appuie sur le bouton avant de rentrer dans les stands.
T'imagines,
quand t'écoutes les deux on-board, il anticipe énormément l'activation du pit limiter. Ah ouais. Excuse-moi, mais je t'ai coupé.
Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, tu commets une erreur la première fois. Je pense qu'à ce moment-là, tu peux avoir le doute. Est-ce que je l'ai vraiment fait? Je pense que lui, 99% de son cerveau lui dit non, mais c'est sûr, t'as bien fait les choses. Mais bon, comme c'est la première fois, tu peux avoir ce petit doute. Du coup, la deuxième fois, tu prends une marge de sécurité supplémentaire.
À la rascasse, il est déjà au limiteur.
Franchement, c'est
assez hallucinant. Ouais,
c'est cruel.
Ah ouais, c'est cruel et c'est terrible pour Pierre Gasly. On espère en tout cas qu'il aura l'occasion de monter sur la boîte, en tout cas du côté de Monaco. Les gars, Ocon en un mot, très rapidement, parce que je pense qu'on a tout dit. Stratégie parfaite. Il nous a refait le coup de l'année dernière, en fait.
Enfin, il marque des points. Hein.
Stratégie parfaite, moi, je sais pas. Je sais pas si la stratégie, elle est parfaitement voulue ou si c'est une stratégie subie contrainte à cause des arrêts de tous ceux qui sont derrière.
Moi, je trouve
notamment
Pérez.
T'as Pérez, t'as Bottas, t'as Alonso, t'as Stroll. Et Alonso et Stroll, à ce moment-là, étaient plus rapides qu'Ocon.
Mais c'est à cause de Hadjar tout devant.
Peut-être aussi. Donc peut-être qu'à ce moment-là, chez As, on se dit, on va l'arrêter pour ne pas subir l'undercut. Et finalement, avec tous les abandons devant, tu te retrouves à marquer des points. Mais effectivement, ça reste positif,
positif sur un week-end
ou même sur plusieurs week-ends consécutifs où on sent quand même qu'il y a quand même pas mal de difficultés chez As.
Pour une fois, il se prend pas le drapeau rouge, il se prend pas un coup de safety car dans les dents ou genre de truc. C'est bien. Voilà, faut marquer les points. Ça fait du bien. Voilà, allez, ça y est, on remet en route la machine et puis on va voir s'il arrive à faire face à Berman, qui, bon, là pour le coup, ce week-end a eu un peu plus de mal.
J'espère qu'il n'y a pas eu d'embrouille avec Komatsu après la course à Monaco.
Je les ai vus discuter avec Laura Müller pendant le drapeau rouge.
Il y avait un noir.
Ils étaient en grand sourire, donc je pense qu'ils s'engueulaient.
Okay. Ne colportez pas la rumeur et les rumeurs infondées, les gars. Deuxième enseignement, on referme cette page française. Cocorico, 3 Français dans le top 10. Bravo, les gars. Vous nous avez régalé dans ce week-end monégasque. Deuxième enseignement, parlons du petit prince, le nouveau petit prince de Monaco, monsieur André Hakimi Antonelli. N'est-ce pas là une petite surprise? Tout a commencé. Alors, on a mis Kim I, frappe un grand coup parce qu'il y a deux Kim qui ont frappé un grand coup dans ce week-end. C'est fini pour la pause gossip, on parle Formule 1. D'une pole improbable samedi, je vous disais. On pensait avant samedi que Ferrari et ses performances en virage lent allaient justement leur offrir un avantage redoutable du côté de Monaco. Mais samedi, après avoir montré le bout de son nez en EL3, André Hakimi Antonelli a signé la pole pour 43 millièmes sur Verstappen. Lui qui a quand même réussi à coller au passage 4 dixièmes à son coéquipier George Russell, nulle part en termes de rythme tout au long de ce week-end. On est passé donc d'une pole improbable le samedi à une domination sans partage le dimanche. Dimanche, il a écrasé la concurrence. Ce qui impressionne, c'est le rythme qu'il a réussi justement à tirer de cette Mercedes, sa manière de maximiser notamment la traction. 42 secondes infligées à Hamilton avant la neutralisation. C'était vraiment magique. Il était tout simplement seul dans son monde, André Hakimi Antonelli, qui signe une 5e victoire consécutive qualificatives qui compte désormais, écoutez bien, 68 points d'avance sur George Russell, 68 points d'avance construit en 6 courses, un deuxième, entre guillemets, un deuxième 25-0 de suite infligé au malheureux Russell, piégé par l'excès de vitesse dans les stands et d'un cafouillage aussi au moment de purger sa pénalité, de la servir, 68 points d'écart, c'est plus de 2 victoires d'avance sur Russell. Mine de rien, les gars, sans créer garde, le petit prince italien est en train de plier le championnat. Alors bon, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on n'a pas de boule de cristal.
On n'a pas le temps.
Mais franchement, 68 points d'avance pour Andrea Kimi Antonelli au sorti du Grand Prix de Monaco, c'est franchement une énorme surprise. On nous l'aurait dit il y a quelques mois, on n'y aurait pas cru. Et même avant ce week-end, on n'y aurait pas cru parce qu'on n'attendait peut-être pas Antonelli et Mercedes à ce niveau de performance.
C'est double peine, c'est double surprise dans le sens où, un, c'est Kimi Antonelli, ouais. Deux, c'est la Mercedes à Monaco quand on attendait à Ferrari. Déjà, Kimi Antonelli, on n'avait pas trop de doutes sur son talent. L'année dernière, c'était très compliqué.
Non, il y en a qu'on a eu.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais eu un doute sur son talent. Je dis, en revanche.
Je parle pas toi.
Je sais. Mais en revanche, effectivement,
c'était. Il y a eu des gens. Après une 14e place à Spa. C'était où? À Imola. À Barcelone en F2. Un peu surcoté, ce Kimi Antonelli.
Non, mais tout ça pour dire qu'il y avait peut-être moins de doutes sur le talent, mais il arrivait un peu tôt en Formule 1 et c'était ça le problème. Cette année, on se disait il allait avoir peut-être du mal avec George Russell, ou en tout cas peut-être qu'il pourrait donner la réplique ou ce genre de choses. On se retrouve dans une situation complètement inverse où c'est un Kimi Antonelli qui est solide sur les appuis d'un point de vue communication sur George Russell, etc., qui répond parfaitement, qui joue peut-être les jeux psychologiques comme il le faut. En piste, c'est parfait. Il n'y a aucune erreur. Je vois pas où est-ce qu'il peut faire des erreurs. La seule erreur que j'ai remarquée, c'est Bono qui lui dit « Oui, alors du coup, on a un gap suffisamment grand, problème de riche. Donc si jamais on devait s'arrêter en safety car, l'autre dit « Comment ça? Mais on a besoin de s'arrêter, je comprends pas. » Non, c'est au cas où il y a une safety car, tout va bien. Donc t'as ça, la qualif, moi je suis subjugué, par le tour qualif qui sort face à un Verstappen, face à un Leclerc, face à d'autres pilotes.
Verstappen
qui fait
le temps parfait, en plus.
Non mais voilà, on touche le bout du bout. Et derrière, la Mercedes, moi je me disais, putain, enfin on va avoir un Hamilton qui va monter sur la boîte tout en haut, enfin on va avoir un Leclerc qui va faire aussi podium machin, on va avoir enfin la fin d'une surdomination des Mercedes sur ce début de saison. Pas du tout. Là, ça a mis un écart de zinzin et je me suis dit, bon, mais il construit son avance sur les premiers tours. Mais pas du tout, en fait. Ils s'en foutent, ils tracent, point barre. Et au moment où Hamilton s'arrête parce que Antonelli revient sur un groupe de retardataires, moi, je trouve que c'est la bonne stratégie adoptée par Ferrari et Hamilton. Moi, je me suis dit, bon, voilà, là, il va perdre un peu de temps. Pas du tout. Pareil, si, il trace. Terminé, bonsoir. Donc, double surprise pour moi. Mercedes, Antonelli, la totale.
Ce qui est intéressant, c'est que pour rebondir sur ce que tu dis, Pierrot, c'est qu'on a un pilote, là aussi, comme pour Isaac, deuxième année en Formule 1. Alors lui, il se bat pour un titre, donc forcément, il y a une pression supplémentaire. Mais à Monaco, il a répondu présent à chaque instant clé de la course.
Mais complet.
Ça veut dire que, ok, dérouler lorsque tu as une machine de guerre, même si Monaco, on peut toujours être piégé, tu évoquais la gestion du trafic, etc. Le départ, parfait. Il est parfait. Les premiers tours, parce que
le départ est tellement parfait qu'il prend la corde à Saint-Devote. Une question.
Je tiens à rappeler que avec ce qui se passe au départ pour Max Verstappen, tu te retrouves avec un Andrea Kimi Antonelli qui se bat face à deux Ferrari. Donc oui. La Ferrari,
stratégiquement, ils ont un coup à jouer.
Tout pour gagner la course.
Bien sûr.
Antonelli, à ce moment-là, il se dit je trace. Je ne laisse pas la possibilité à Ferrari d'adopter deux stratégies totalement différentes qui vont me coûter une position.
Pas du tout.
Il se retrouve, alors pas sur un rythme de qualification, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas sur le début de course, il colle 5 dixièmes, une seconde au tour, aux deux Ferrari, il se retrouve assez rapidement avec une avance confortable.
Avant d'arriver dans le trafic. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'arriver dans le trafic, il a cette marge de manœuvre qui lui permet de ne pas être exposé à l'undercut.
Il augmente sa marge en étant dans le trafic. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie?
Et on parle du trafic, c'est vrai qu'en 2026, alors avec, oui, deux voitures de plus, mais avec des rythmes aussi totalement différents par rapport à ce que l'on a pu avoir, notamment la saison passée, le trafic, tu le récupères beaucoup plus rapidement. Je crois qu'au 13e ou 15e tour,
t'es déjà dedans.
Déjà les premiers retardataires que tu dois dépasser, même si eux, en l'occurrence, étaient arrêtés une première fois. Et puis, sur la suite de ce week-end parfait dans la gestion des instants clés, l'arrêt au stand, parfait. La voiture de sécurité qui arrive, ça ne change pas plus que ça. Le restart, il est propre. Le drapeau rouge, là, on se dit, en plus, quand on connaît, là, c'est première ligne. Antonelli qui a des difficultés au départ depuis le début de la saison, Hamilton avec qui a une fusée avec Ferrari sur les départs depuis le début de la saison. Donc il a tout pour perdre sa victoire, une victoire construite mais facilement depuis le début de la course. Il a tout pour tout perdre sur ce départ à 10 ou 12 tours de la fin. Le départ, il est parfait, il déroule, il met son rythme et il va s'imposer. Donc sincèrement, quand même, tu prends une petite gifle.
Ah,
tu prends
une petite gifle. Non, là, j'ai pris une vraie claque dans la gueule. C'est pas une petite gifle, là, je suis désolé de te le dire.
Parce que mine de rien.
Et imagine George Russell.
Non, mais Russell, moi, je
voilà, il est dans le port en train de couler, mon pote.
Mais sur Antonelli, sincèrement, c'est un jeune pilote qui a commis quelques erreurs depuis le début de la saison, qui, contrairement à Russell, ne lui ont rien coûté. Il faut quand même le rappeler. Mais mine de rien, au-delà de. Indépendamment de l'avance au championnat, sincèrement, ouais, c'est un vrai message qu'il envoie à tout le microcosme de la Formule 1. Maintenant, parce qu'il y a un mais, on entre dans la série européenne de la saison. Et rappelez-vous, la saison dernière, Antonelli, sur les courses européennes, il a eu énormément de difficultés. Donc, à voir. Alors là, il a la voiture gagnante, etc. Mais on va quand même voir si, sur l'enchaînement des 2-3 prochains Grands Prix, on a toujours un Antonelli dominant ou pas.
Ce qui va être intéressant avec Antonelli, en fait, maintenant, ça va être de voir quand le momentum va changer. Quand il y aura un petit peu moins de confiance.
S'il change,
t'as raison. Bah, à un moment donné, sur 24 Grands Prix.
J'ose espérer qu'il va changer à un moment donné.
Ou alors, juste pour le spectacle, hein, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. C'est là qu'on aura hâte de voir ça. Mais il y avait du Magic hier. Quand je dis du Magic, je fais référence même à monsieur Ayrton, à qui il ressemble beaucoup.
Tu parles de Senna. Il y a une photo qui pourrait devenir iconique selon la légende que pourrait construire Andrea Kimi Antonelli durant sa carrière. La fameuse photo de Senna qui prend un tour à Alain Prost juste avant le tunnel. Là, comme par hasard, Antonelli prend un tour à Russell juste avant le tunnel, au même endroit, et il y a un cliché de ce dépassement.
Et même sur les radios, je vais vous mettre une petite déclare là dans quelques instants, mais même sur les radios, ça a rappelé un petit peu la gestion de Ron Dennis avec Ayrton Senna en 88, quand Senna explose littéralement Alain Prost, qu'il a 30-40 secondes d'avance, et qu'à la radio, on lui dit « mais calme-toi ». Hier, ils ont essayé de le calmer, ils n'ont pas vraiment réussi d'ailleurs du côté
Ouais, mais j'ai trouvé Mercedes. Qu'il était en contrôle plus qu'un Sébastien Vettel du temps de chez Red Bull quand il gagnait, parce que Sébastien Vettel écoutait pas, faisait à Rocky, à Guillaume Roclin, il faisait non mais en fait on lui dit non mais Breaking Down, l'autre il fait ouais, meilleur tour.
Mais après il y a des pilotes aussi qui ont besoin de ça.
C'est exact.
Il y a des pilotes,
c'est
je pense,
expliqué,
si
le vrai piège.
Exactement, s'ils sortent de cette zone de compétitivité extrême où ils sont à 100% à chaque tour, si tu bascules à 98%,
ils ont besoin de donner tort à leur ingénieur.
Mais c'est même pas ça, c'est que dans la construction de leur pilotage et de
la performance,
du sportif qu'ils sont devenus, ils ont besoin de ça, sinon ils se mettent en difficulté.
Le vrai piège à Monaco, c'est de sous-conduire, c'est de sortir de ton rythme.
Ce qu'avait fait Senna,
et ce qui est très dangereux parce que en 2000, sur ces dernières années, on se retrouve avec des temps autour où vraiment on est pépère, et en fait c'est le meilleur moyen de mettre la bagnole dans le mur parce que t'as pas les mêmes repères de frein qu'en qualif. Et là, forcément, faut un peu s'adapter, et surtout sur FP1, FP2, FP3, généralement à Monaco, on bosse beaucoup plus la qualif que le rythme long, etc. Donc il y a ce danger-là. Donc faut pas sortir trop loin et pas surconduire et faire comme du Vettel, comme il faisait à son prime, et bravo, etc. Mais faut pas non plus sous-conduire. Et effectivement, je suis d'accord avec
Hamza. Le danger de sous-conduire, c'est au moment où t'as besoin de nouveau reconduire, là t'es perdu. Parce que ça peut être quoi ? Ça peut être une safety car ou un drapeau rouge qui relance la course. Ça peut être une safety car puis un arrêt au stand qui se passe mal. Et effectivement, là tu te retrouves en difficulté. Donc je suis pas forcément que ce soit négatif d'avoir un pilote comme Antonelli qui enchaîne tous ses tours pour rester justement dans le rythme. Antonelli, premier Italien vainqueur à Monaco depuis Jarno, chapeau 2, Trulli. Quand même. Ça, il faut le signaler, messieurs.
T'as raison. Bravo. Et ça fait plaisir à Brice, qui nous avait prévenu, qui nous avait dit, non seulement qu'Antonelli avait du talent, mais que surtout Jarno Trulli méritait le chapeau 2. Andrea Kimi Antonelli et sa petite réaction justement en conférence de presse. Encore une fois, les conférences de presse, elles sont vraiment sympas cette année. Et celle d'hier a été encore sympa. On avait parlé de celle de Montréal. Il dit, ce n'était pas facile pour moi de se concentrer à nouveau sur la course après son interruption. Je me suis dit mince, je vais en plus avoir Lewis Hamilton à côté de moi sur la grille. Or, on sait combien les Ferrari sont véloces au départ. Heureusement, tout s'est bien terminé. Toto Wolff aussi également sur Canal+, qui nous parle justement de ces échanges à la radio et comment ils ont essayé de calmer le jeune Italien. Il dit, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Il maîtrise toute la course et parfois une seconde et demie plus rapide que n'importe qui. Puis, il relance, creuse l'écart. C'est vraiment incroyable. Personne ne pouvait le battre aujourd'hui. C'est Bono qui a commencé à lui demander de ralentir. Puis moi, il fallait lui faire comprendre qu'il avait une demi-minute d'avance, mais il a continué à enchaîner les bons chronos et on s'est dit c'est peut-être son rythme. Et ben ils se sont bien dit.
Je pense que c'est son rythme.
Tous les pilotes
Pardon. Vas-y, non, je pense non, que
tous les pilotes qui ont gagné 5 courses consécutives ont été champions du monde.
Bon, bah voilà.
C'est plié, c'est fini. Voilà. Bonne saison, les amis.
Bonne saison.
Salut.
À la prochaine.
Les gars, ouvrons très rapidement quand même le cas de George Russell. 56-8 sur les deux derniers week-ends. 56 points pris par Antonelli, 8 inscrits par Russell. Jamais dans le rythme à Monaco, notre ami Georgie. Ah,
sur les deux derniers week-ends.
Sur les deux derniers week-ends, ah, parce que c'était un sprint.
C'est un 50-0.
Ah, 56-8 avec le sprint à
dans ma tête.
Montréal.
Ah, ouais, ok. Ouais, ouais. J'ai pas compté les sprints.
Mais non, si on compte. On va compter à partir du dimanche du Canada. Ah,
ça,
si
fait
veux, ça fait
50-0. Si
merci,
tu
heureusement que t'es là. Putain.
Jamais dans le rythme, on l'a dit, George Russell du côté de Monaco. Et puis la Bérézina avec cette histoire de pénalité. Là, franchement, il y a des choses qui sont de sa faute, le rythme en tout cas. Mais encore une fois, c'est le cercle vicieux dans, ouais. Lequel, ouais. Dans lequel il est depuis le début de la saison.
Ouais. Très sincèrement, George Russell, alors oui, effectivement, il y a, en qualification, il prend une pile par son coéquipier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je trouve que sur ce week-end, il y a un manque de réussite, mais c'est même plus total, c'est même plus extrême. Il faudrait inventer un qualificatif pour ce qui se passe avec George Russell. On ne va pas revenir sur l'histoire du... parce que c'est exactement la même chose que pour Pierre Gasly, hein, finalement, sa pénalité, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, là où tu as un manque de réussite total, et je vais l'exprimer, je vais l'illustrer, c'est que, contrairement aux deux Ferrari lorsqu'elles s'arrêtent, suite à la safety car, tu as donc Hamilton qui est devant Charles Leclerc. D'accord, ouais. Avec un Hamilton qui a moins de 5 secondes d'avance sur Charles Leclerc, mais qui a une pénalité de 5 secondes. Donc, ce qui entraîne un nouveau drama, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Les deux pilotes, ils sont à la sortie du tunnel. Donc tu as un tiers de circuit encore à réaliser pour établir la stratégie. Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on ne rentre pas? Et finalement, Ferrari fait rentrer les deux pilotes. Mercedes, tu as Antonelli qui est juste devant Russell, ouais. Sauf qu'il lui a pris un tour. Les deux pilotes, ils sont au niveau de la rascasse. Dernier virage. Donc, tu n'as pas le temps de réagir. Russell demande « Est-ce que je rentre au stand ?» On lui répond « Non, 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 ne rentre pas au stand. » C'est trop tard. Russell, il est déjà entré au stand. Il y a Antonelli juste devant. Ils ont préparé les pneus d'Antonelli parce que lui, l'arrêt était prévu. Russell arrive juste derrière. Ils ont une chance inouïe, en tout cas. Russell a une chance déjà à ce moment-là. C'est le seul point positif de ce week-end.
Et encore.
C'est que les pneumatiques qui normalement ne sont pas prêts, ils sont dans la couverture chauffante, entreposés au fond du box.
Placard.
Là, ils étaient finalement à côté, donc il n'a quasiment pas perdu de temps. Sauf que les mécanos, on ne leur a pas dit que Russell devait s'arrêter. Donc Russell entre au stand, et eux, à ce moment-là, psychologiquement, ils vont juste changer les pneus, un double arrêt comme on
double
en a
stack
vu,
de Mercedes,
comme Mercedes
qu'on
en a fait une spécialité lors de la décennie Hamilton-Bottas. Les deux pilotes s'arrêtent. Sauf qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans l'optique « Ah ouais, mais en fait, Russell, il a une pénalité de 5 secondes. » Donc, on change les pneus, il ressort. Russell, tout de suite, il sait, il le dit à la radio chez Mercedes, on lui dit « Hop, 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 ne parle pas, on te tient au courant, parce qu'on n'a pas forcément envie d'éveiller les soupçons, mais de toute façon,
ouais, c'était fini, hein.
À l'intransigeante, ça, tout le monde le sait. » Donc, à ce moment-là, tu fais ton arrêt, tu n'as pas respecté tes 5 secondes de pénalité. Forcément, tu as une grosse sanction qui arrive parce que ça, c'est réglementairement. Même si la première sanction, elle est extrêmement sévère, et là, je fais référence à l'enseignement que, et Pierre notamment Gasly. Au décryptage Pierre Gasly. Russell roule. Fin de la safety car, tu as les trois premiers qui sont regroupés. Tu as Isaac Hadjar et George Russell qui ont rattrapé le retard. Donc, tu as les cinq premiers qui sont collés. Sauf qu'entre Russell et Pierre Gasly, il y a 25 secondes. Donc à ce moment-là, après la première safety car, si Russell prend son drive-thru et qu'il n'y a pas le crash de Charles Leclerc, Russell il fait son drive-thru, il termine quand même 5e de la course. Et il prend 10 points et du coup il ne concède pas 25 mais seulement 15 points par rapport à son coéquipier Andrea Kimi Antonelli. Mais patatras, Charles Leclerc se crash. Deuxième safety car, tout le monde se regroupe.
Drapeau rouge.
Et là, c'est fini. Et là, même si au restart, tu tentes une stratégie de créer un gap pour ensuite enchaîner deux tours de qualification, c'est trop tard et tu te retrouves dernier. Alors que même dans toute cette configuration de malchance totale, t'aurais pu t'en sortir en gardant ta 5e position. Et finalement, tu te retrouves avec 0 points.
Ah mais il a essayé c'était au restart du coup du Grand Prix quand il restait moins de 10 tours justement de
après le drapeau rouge.
Il sort de Sainte-Dévote, il passe pas la 4. Hein. Là la montée, il passe pas la 4, tout le monde derrière embouteillage, ça se finit mal pour Sainz parce que ils sont à 3 de front dans l'épingle du Loves, donc forcément ça peut que mal se terminer parce que justement il essaie d'ouvrir un gap pour ensuite remettre pendant 2 tours la sauce, ça c'est Brice Germain qui nous l'a dit hier en conférence de rédaction. pour mettre la sauce et essayer de ressortir pas trop loin dans le pack. Bon, il ressort avant-dernier, je crois, sur la course. Bon.
Avant-dernier, parce que Colapinto, il est ralenti par le crash.
Alors, ralenti parce qu'il met en tête à queue Carlos Sainz. Je tiens à préciser, comme si c'était pas assez. Ceci étant dit, il a rendu service à tout le monde parce que Sainz était en crabe. Il se retrouve à l'envers, il a juste à rentrer vers le portier, vers le Larvoto, mais, là, prendre un verre chez Briatore.
Il y a une image où Carlos Sainz et Colapinto, ils sont ensemble au moment de la zone mixte. Et
ah, vraiment, mais
Colapinto
sont,
allait venir s'excuser, oui. présenter ses excuses.
Sainz, fait, c'était fini pour moi.
Il lui dit ouais, non, mais en fait, t'inquiète, c'est pas toi, la voiture était déjà cassée à ce moment-là.
Colapinto, il comprend pas. Il dit, comment ça ? J'ai pas cassé une nouvelle voiture.
Pour Russell, Toto Wolff a eu des mots forts. La com hier de Mercedes était alignée entre Toto Wolff et George Russell. Et on en appelle notamment eh bien, à l'année dernière, au scénario 2025. Toto Wolff disait sur la F1 TV, Montréal a été un vrai drame car nous l'avons laissé tomber. Et cela aurait pu nous coûter 25 points de plus avec un accrochage entre les deux. Mais le championnat est long et il faut continuer à y croire pour lui. Le championnat est long. L'an dernier, tout le monde disait que Piastri allait gagner. Puis la situation a basculé. Pareil, hein, George Russell, lorsqu'il est arrivé devant la presse, il a beaucoup invoqué l'argument, la bataille Russell-Norris et le fait qu'il y a plusieurs dynamiques dans,
oui.
dans une saison.
Voilà. Alors pour terminer très rapidement là-dessus et passer à la suite, en vrai, quand on voit la situation de George Russell, il y a quand même beaucoup de malchance sur les derniers Grands Prix, mine de rien.
Depuis le début.
Depuis le début. Ceci étant dit, ça n'enlève pas qu'il a un manque de rythme vis-à-vis de Kimi Antonelli, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, en fait, il est plus bas que terre que ce qui devrait être. Et c'est ça où ça fait mal. Et même pour lui, en fait, à un moment donné, il va se dire, mais quand est-ce que ça a arrêté de s'acharner sur moi, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ça va s'arrêter un moment.
Ça va s'arrêter un moment.
Il peut pas faire 24 courses comme ça.
Mais il faut qu'il arrive à retrouver une dynamique. La dernière fois que j'étais venu dans l'émission, j'avais dit, bon, bah, George, faut se mettre au boulot. Bon, alors, il est au boulot, mais pas assez. Il se prend des coups de massue un peu sur la tête. J'espère pour lui, et je vais me faire un peu l'avocat du diable, et Dieu seul sait que je suis pas spécialement fan de ce pilote, mais ça me fait quand même mal au cœur pour lui, que ce soit le Canada ou même ici. Justement, que ce soit même en qualif hein, à Monaco, de le voir à 3 dixièmes alors qu'il a la meilleure voiture du plateau parce que ça se voit, c'est bon, je pense que Monaco vient de nous dire que Mercedes était au-dessus de tout le monde, point barre, et là maintenant il n'y a même plus
aucun... Ils n'ont pas le meilleur moteur, il paraît.
Non mais c'est ça qui est le plus insolent. Et donc du coup j'ai quand même mal au cœur pour George Russell et je me dis, bon, j'aimerais quand même, je ne veux pas qu'il perde, mais je ne veux pas qu'il perde aussi violemment. Quoi. J'aimerais qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse respirer et sortir un peu de la tête de l'eau.
Qu'il puisse se battre.
Juste qu'il correctement. Là, il est obligé de faire des tactiques dégueulasses pour essayer de minimiser la merde qu'on a. Franchement, désolé, hein, mais Mercedes et son ingénieur étaient pas. Et ils étaient aux fraises, complets. Reste dehors alors que le gars, il est déjà. Mec, dis-lui avant. Les pneus, ils sont prêts, ils sont pas prêts, bien sûr, mais les 5 secondes, l'équipe, faut rappeler. Ah merde.
Ouais, mais là, la situation d'urgence, honnêtement.
Mais même si c'est la situation d'urgence,
de circonstances.
C'est Mercedes, que ce soit As ou Cadillac. Bon, mais encore As. Mais que ce soit Cadillac ou c'est comme ça. Bon, oui.
Non, mais le manque de réussite. En fait, si la voiture de sécurité est déclenchée au moment où il sort de la piscine. Bah t'as ces 10 secondes supplémentaires qui te permettent peut-être de mieux gérer la situation.
Non mais je suis d'accord.
Là c'est une urgence, franchement c'est un concours. Pour moi c'est vraiment un concours de circonstances où Russell il a zéro part de responsabilité.
Je suis pas d'accord. On est à Monaco, safety car, je suis pas d'accord. À Monaco, safety car, Mercedes, t'as joué ça plein de fois. Vous préparez des meetings avec des centaines d'ingénieurs avant. Non.
Je suis d'accord qu'on est à peut sortir à un moment qui n'arrange pas.
On est d'accord.
Tu dois gérer deux voitures, l'une.
On est d'accord, mais ça, c'est des scénarios qui sont prévus.
C'est pile poil au moment où Antonelli vient de doubler Russell. Encore une fois, je parle du manque de réussite.
Je suis d'accord.
Et depuis le début de saison, on évoquait tout à l'heure pour conclure Antonelli, depuis le début de saison, les petites erreurs ou les erreurs qu'il a pu commettre, ça lui coûte zéro. Russell, quand il commet des erreurs, ça lui coûte.
C'est plein.
Et lorsqu'il ne commet pas des erreurs, ça lui coûte.
Ça arrive à jouer à chaque fois.
Donc, c'est du sang en termes de réussite pour l'instant. On est sur un déséquilibre total, on est sur du 100-0.
Exactement. Voilà pour ce bel enseignement Mercedes. Il y avait des choses à dire les amis, petite pause, petite interlude dans cette émission parce qu'on va tout de suite parler de l'affaire mon cher Pierrot, de cet asphalte brûlant, de cette bande d'asphalte justement, eh bien, qui est partie complètement en sucette, notamment à l'approche d'Anthony Nogues.
Exactement. Hier on a vécu deux crashs au même endroit avec la même typologie. C'est assez rare hein, mais l'explication elle est relativement simple et elle est importante à donner pour donner un petit peu toutes les explications à nos chers spectateurs. Ce week-end à Monaco, comme chaque année, la principauté resurface certaines portions du tracé qui sont simplement des rues publiques empruntées par les voitures de luxe et futures immondices de Ferrari Luce pour permettre justement aux F1 et aux autres catégories de pouvoir rouler en toute sécurité, gommer quelques bosses ça et là. Sauf que, au fur et à mesure des passages des F1 hier après-midi, une portion du tarmac resurfacé a commencé à s'arracher à l'entrée du dernier virage à Anthony Nogaz justement, en plein sur la trajectoire. Certains pilotes n'ont rien vu venir, d'autres s'en sont rendus compte assez vite, comme Esteban Ocon qui le disait en interview chez Canal, une fois qu'il avait fait son arrêt au stand, il a préféré se taire parce que ça risquait de faire foirer sa stratégie comme d'habitude, de se prendre un drapeau rouge, une safety car, genre de choses, et que ça lui retombe dessus. Donc il a soigneusement pris des précautions et a légèrement modifié sa trajectoire pour éviter d'avoir des problèmes. Alors du coup, moi j'ai trois raisons entendables à vous donner, parce qu'on n'a pas forcément une explication officielle. La première, c'est la chaleur et le soleil qui peut jouer et qui peut faire fondre le bitume. C'est déjà arrivé, mais là on n'était pas non plus en période caniculaire et ça dépend évidemment de la composition du bitume, mais ça peut jouer effectivement. La deuxième, c'est un problème lors de la pose du bitume. C'est possible, ça arrive, c'est des erreurs et des choses qui peuvent un peu foirer, un mélange qui est peut-être pas bien préparé, bref, voilà. Et la troisième, c'est évidemment le passage des voitures tout le week-end qui a usé la piste. Les pneus en Formule 1, surtout les pneus soft et médium à chaud, ça colle. Et c'est vraiment pas une figure de style qu'on emploie quand on vous dit que ça colle, c'est que ça colle vraiment. C'est comme marcher avec des baskets sur une flaque de champagne ou de vodka en fin de soirée sur un yacht. Vous avez peur d'y laisser votre chaussure, si tant est que vous en avez encore. Alors, du coup, le cumul probable des trois mène à une partie du tarmac qui s'arrache au fur et à mesure. Et du coup, ça laisse un trou avec des cailloux et des graviers apparents, et même des débris sur la partie extérieure, justement, qu'on voit sur cette image-là. Stroll et Leclerc ont une trajectoire un peu plus ouverte et donc un petit peu plus large en entrée lors de leur crash. Donc, ils ramassent tous les deux des gravillons sur le pneu extérieur en appui. La bande de roulement, donc le pneu qui est en contact avec la piste directement et qui fait tourner la voiture, ne colle plus au sol du tout. Et alors là, sous virage, et boum, c'est le mur, tout simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les deux se sont retrouvés sur cette trajectoire. Alors d'abord, on va prendre le cas de Lance Stroll. C'est pour cause de mauvais frein moteur. Problème évidemment moteur sur l'Aston Martin. En fait, ça se voit même à la rascasse un petit peu. On a cette impression en onboard que le moteur pousse littéralement la voiture justement au lieu de freiner. Comme si le pilote avait encore du gaz sur la pédale et pourtant, c'est pas une erreur de Lance Stroll. Donc du coup, il se retrouve avec un sous-virage naturel qui l'emmène dans les graviers, dans les débris entre guillemets, et c'est le mur à Anthony Nogaz. Alors ça c'est un petit peu dommage. Et puis pour Charles Leclerc, essentiellement c'est un problème de frein. Il touchait à peine les freins par peur d'avoir du on-off justement. Non seulement mauvaise trajectoire, mais pas de frein ou peu. Donc du coup, comme il n'y a pas de frein, il n'y a pas de charge sur le train avant. Donc on a moins d'adhérence sur le train avant et du coup plus les petits gravillons sous virage. Et puis on se retrouve dans le mur avant de pouvoir dire merde. On avait déjà vu arriver ce genre de problème de bitume. On se posait la question hier avec Hamza. Le dernier en date remonte au Canada 2008, mesdames et messieurs, où le virage 2 était complètement usé et où c'était essentiellement pareil, des graviers, un peu la même chose qu'à Monaco. Mais comme rien n'arrêtait la Formule 1 de Bernie Ecclestone, les voitures ont quand même roulé. Évidemment, une piste qui se dégrade de cette manière, ce n'est pas normal ni acceptable aujourd'hui au vu des standards de la Formule 1. Heureusement que ce problème n'était pas dans les S de la piscine, par exemple, parce que ça aurait été beaucoup plus grave. Mesdames et messieurs, à corriger pour l'année prochaine.
Exactement, à corriger pour l'année prochaine. Et merci pour cette claire explication. On comprend mieux pourquoi Lance Stroll et Charles Leclerc nous ont expliqué justement que ce n'était pas des problèmes liés au tarmac, mais comme tu l'as dit, frein moteur. Et pour Charles Leclerc, problème de frein. Ça nous emmène justement au troisième enseignement, les problèmes de frein de Charles Leclerc et une prolongation dans la douleur. Il y a presque deux sujets dans ce même sujet. Petit récap, Leclerc, un cauchemar de plus. Lui qui mercredi nous annonçait sa prolongation chez Ferrari, troisième contrat qu'il signe au sein de la Scuderia selon Sky Sports, accord ferme pour les saisons 2027 et 2028. C'est Leclerc qui disposerait d'une option pour 2029 et 2030. Le timing, lui, pourrait presque interroger, à savoir pourquoi prolonger maintenant pour Charles Leclerc. Bref, on aura peut-être l'occasion d'en parler. L'erreur en Q3 qui lui coûte cher, très cher, pas à l'aise avec ses freins, il sera tamasné sur son premier run, ça l'oblige derrière à se décaler pour mettre un tour en banque et dire adieu à la Paul. pôle, il termine quatrième et en plus sur sa dernière tentative désespérée, non seulement il fait une erreur et en plus il est gêné par le trafic. Il y a le crash en course, cette affaire de frein. Alors qu'il ait profité du problème de Verstappen pour s'inviter sur le podium, il tape à la relance de la safety car du côté d'Anthony Nogues, comme tu me l'expliquais Pierrot, en cause des problèmes de frein récurrents qui ont provoqué hier la colère du Monégasque, mais la colère aussi du fournisseur de frein de Ferrari, à savoir Brembo. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard dans la nuit, ça a été un peu franchement le feuilleton moi qui m'a passionné, c'est qu'on a appris qu'apparemment Lewis Hamilton n'utiliserait pas complètement des freins Brembo.
Ça
on va en parler, parce que c'est vraiment très pimenté et très intéressant. Mine de rien, à la fin et à l'arrivée pour Ferrari et Leclerc, Monaco reste une occasion gâchée. Au final, on disait qu'on attendait Monaco comme une chance de victoire pour Ferrari. Leclerc, avec malgré ses mauvaises sensations, avait quand même un super rythme. Qu'est-ce que ça aurait été si on lui avait mis les freins de l'autre marque? Bref, et à côté de ça, le pire pour Leclerc, c'est que ça plane pour Lewis. On le rappelle, Lewis Hamilton, le nouveau dauphin au championnat du monde. Oui, ça fait bizarre, mais c'est bien réel. Deuxième P2 consécutif pour Lewis, troisième podium sur ses 6 premières courses, dans la lignée du visage affiché à Montréal lorsqu'on évoquait le retour du roi. Et il faudra peut-être chercher, là encore, du côté des freins. Avant d'évoquer Leclerc, les gars, disons-le franchement, Ferrari nous a laissé sur notre fin ce week-end.
Finalement, ils n'ont pas le si meilleur châssis que ça, final.
Ou il leur manque des trucs.
En fait, la performance du moteur, on se disait, il manque de puissance au Canada, etc. Finalement, là où ça joue le moins à Monaco, on n'a pas vu une Ferrari aussi performante que Mercedes. Et c'est là où la Mercedes est hyper surprenante, dans le sens où c'est une voiture qui est homogène à la fois châssis et moteur et qui fonctionne parfaitement ensemble. Là où Ferrari a quelque chose d'assez similaire par rapport, je pense, à Red Bull, où le châssis n'est pas bon vis-à-vis du moteur, visiblement, puisque c'est le meilleur moteur thermique de la grille, mais effectivement je vois une Ferrari qui a une homogénéité mais qui a besoin de travail encore pour la mise au point. On a vu un arrière très léger mais très engageant qui permet quand même de bien faire pivoter la voiture, notamment sur l'entrée de la chicane du port. On a vu un Charles Leclerc être à la limite plusieurs fois en sortie de chicane du port, y compris hier. Donc il y a une bonne voiture, mais la Mercedes c'est un cran au-dessus, à la grande surprise générale.
Il y a un manque un peu partout en fait.
Il y a juste un manque de perfo. J'ai l'impression.
Moi sincèrement après la qualification, je fais quand même. Ouais. Pour moi tout autre résultat que 1 et 2 en qualification était un échec.
Ah ouais, à ce point-là tu penses?
Tu connais l'espoir Monaco. Ouais. Et il y a aussi je pense une envie.
En fait, t'as un tifosi dans l'âme toi.
Bah totalement. Il y a aussi une envie de je pense que c'est plus ça qui a pris le dessus mais sincèrement, j'ai été vraiment vraiment déçu. Après je rebondis aussi sur la réaction de Lewis Hamilton après la course, où au micro de Sky Sport Italia, on lui posait la question: est-ce que c'est quand même pas une déception par rapport à ce que vous attendiez? Il a dit non, pas ce qu'on attendait, ce que vous attendiez.
Donc, il est bon comme putain, il est bon.
Il est revenu, il est de retour.
Après sur la course, mine de rien, alors oui, t'as le départ le problématique de Max Verstappen, ça fait normalement P2 P3, ça reste un week-end plus qu'acceptable pour Ferrari à Monaco. Après il se passe ce qui se passe pour Charles Leclerc, mais sur l'ensemble du week-end c'est pas désastreux, loin de là.
Revenons sur deux choses, les gars. Un, la prolongation de Leclerc. Deux, cette histoire de frein. Parce que.
L'histoire de frein, s'il te plaît, d'abord.
Alors, commençons par l'histoire de frein. Charles Leclerc, tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué, s'est raté donc à Anthony Nogues sur la relance de safety car. Et derrière, ça a complètement anesthésié ses espoirs. Il passe au micro de Canal. Et là, franchement, il faut reconnaître à Charles Leclerc que quand il s'arrête pour dire des choses à un micro, il dit les choses.
Il parle français,
très clairement. Petit verbatim. Il nous dit: le goudron, je l'avais vu quelques tours avant, je suis allé un peu à l'extérieur. Il y avait peu de grippe, mais ce n'était pas là le problème. Là, j'ai eu la confirmation via les données. Je suis le premier à ne pas me chercher d'excuses et je suis le premier à ne pas avoir honte de dire quand je fais le con. Mais là, je n'ai pas les mots, je n'ai pas envie de parler car j'ai peur d'être trop dur, mais c'est inacceptable. Il dit un peu plus loin: les problèmes de freins que j'ai eus dans les deux derniers week-ends, c'est inconduisible. Je ne peux pas toucher les freins. Les freins arrière ne fonctionnent pas du tout. C'est comme ça depuis deux week-ends. Ce n'est pas que je n'ai pas le contrôle, c'est que c'est impossible de l'avoir. Les freins font du on-off et c'est mon problème depuis deux courses. Encore une fois, on a une solution. Lewis est allé dans cette direction il y a 3 ou 4 courses. Ça va changer à Barcelone. Ce qu'on apprend en fait en filigrane, on ne sait pas, c'est pas officiel, mais de nombreux médias l'ont expliqué hier, et notamment des médias assez sérieux comme Autosport, nous disent qu'en fait Lewis Hamilton, il aurait gardé l'étrier de frein Brembo, mais qu'il aurait demandé à ce qu'on fasse appel pour le frein, pour le disque notamment, à l'ancien fournisseur avec lequel il était habitué, une société française avec laquelle il est habitué habitués de travailler.
Qui s'appelle Carbon Industries, disons-le.
Cocorico.
Disons-le,
Cocorico.
Ah oui, que... on a plus d'écurie française en Formule 1, donc ah autant.
Bon, faites bon frein.
Bah, ceci dit, il y avait un certain François Provost qui était, qui était sur la grille. Voilà, bon, bref.
Faut pas qu'il parle de Formule 1. Pardon. mais voilà. Et donc on serait parti sur cette direction-là. Et du coup, tout ça a créé, a provoqué la colère de Brembo, qui a quand même pondu un communiqué qui est long.
Officiel alors, et qui est sorti très, très tôt. Hein.
Et qui est sorti très, très tôt. Il est très, très long. Je vous ai mis juste un extrait. Brembo qui pète les plombs et qui nous dit « Le groupe Brembo est vraiment surpris par les déclarations faites par Charles Leclerc après le Grand Prix de Monaco. Le partenariat entre Brembo et la Scuderia dure depuis plus de 50 ans. Dans des cas comme celui-ci, il est nécessaire d'examiner les données de télémétrie avec les ingénieurs de l'équipe afin de déterminer avec précision l'origine de l'incident. » C'est une bombe cette histoire de frein.
Ils ont raison. Il faut analyser les datas. Mais à partir du moment où Charles Leclerc met 3 à 4 barres de pression, pour vous faire une idée, pour monter dans la Lotus F1 là, il demande 50 barres de pression à l'arrêt, ce qui est énorme et ce que tout le monde n'arrive pas forcément à faire. Parce que, en fait, si tu freines pas fort en Formule 1, la voiture s'arrête pas. En fait, tu touches un peu les disques, mais en fait, les disques fonctionnent à partir de 400 degrés. Donc, faut en mettre de la puissance de frein. Donc, l'autre, il met 4 barres, j'ai plus le chiffre exact, mais à peu près, ce qui est absolument ridicule. Les freins font du on-off, c'est l'enfer. Donc effectivement, il y a un vrai problème de frein. Et si Lewis Hamilton, qui a demandé, qui a remué le ciel et terre pour demander à Fred Vasseur, s'il te plaît, mets-moi du Carbon Industries sur...
Alors, on l'a appris, hein. Que Hamilton et ils ont employé le terme beg, supplier. Il a supplié pendant de longues semaines et de longs mois
Fred
Vasseur d'être dans son camp pour justement de trouver des solutions et d'accepter les demandes de Lewis Hamilton. Enfin, là avec cette histoire, on a quand même appris pas mal de choses sur cette
situation. Et la vraie question, en fait, il y a deux choses. C'est que est-ce que justement les problèmes de frein de Lewis Hamilton, est-ce que c'était pas ça qui l'a vraiment beaucoup retenu la saison dernière? Est-ce que c'est pas ça? Alors, on va pas mettre tout sur les freins, mais le freinage, ça reste pas quand même l'une des plus grandes parties du pilotage.
Ça joue sur la confiance,
ça joue énormément sur le pilotage et sur la manière dont tu abordes les virages, ceci, cela, donc c'est hyper important. Et deuxièmement, on lui a monté des freins, mais du coup, un peu en douce, ou comment ça se passe? Est-ce que Brembo était au courant qu'on a monté des freins de Carbon Industries sur la voiture de Lewis Hamilton? C'est une vraie question. Et alors, derrière, juste pour terminer la page Brembo, en tout cas, Brembo, c'est pas que la Scuderia Ferrari, c'est aussi les voitures de route. Donc, autant vous dire, moi, je peux te dire, j'achète des Ferrari, on me dit, les freins Brembo en Scuderia Ferrari, bof, Carbon Industries. Alors, moi, je vais voir John Elkann, hein, je fais ta Ferrari Luce, là, t'es gentil, tu me la dégages, et puis tu vas me mettre des Carbon Industries. Hein.
On vient d'apprendre, j'achète des Ferrari, je vais voir John Elkann. Bon, on n'a pas tous le même portefeuille, et on n'a pas tous le même répertoire téléphonique.
Je t'ai parlé de la vodka sur le sol du yacht, putain, Hamza, sois concentré, s'il te plaît.
C'est vrai que tu mènes une sacrée vie.
Et j'étais en studio pour le Grand Prix. Hein. Il y en a d'autres qui étaient vraiment sur des yachts pour le coup ce week-end à Monaco, ils sont créateurs de contenu.
Non, mais cette histoire nous a complètement dépassé. Les gars, on en vient justement à ce cauchemar de Leclerc qu'on est obligé de remettre en perspective avec cette prolongation annoncée justement dans la semaine. Moi, j'ai été assez étonné par le timing de cette prolongation, et j'ai même été étonné quand on met le nez un petit peu dans le contexte de cette prolongation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier contrat signé par Charles Leclerc, c'est 2024, donc avec engagement ferme sur 2025-2026, et derrière, Ferrari avait 2 ans d'option, donc c'est-à-dire 2027-2028. Ferrari lève l'option. Les proches de Charles Leclerc disent « Ok, pas de souci, mais nous, on aimerait renégocier le contrat. » Il se pose autour d'une table, il prend le troisième plus gros salaire de la F1 d'aujourd'hui. Il le mérite, franchement, et tant mieux pour lui, bravo, félicitations. Mais si tu veux, ce qui est assez étonnant dans cet engagement, c'est que du coup, il est engagé pour 2027-2028 d'un point de vue ferme, mais par contre, il garde ses libertés et les options pour 2029 et 2030. Je comprends que Ferrari ait voulu sécuriser le fait d'avoir Charles Leclerc. J'ai plus de mal à comprendre que Charles Leclerc, tout de suite, entre guillemets, ait accepté.
Mais non, mais là ce que tu nous racontes, c'est que Ferrari ait voulu sécuriser, mais Ferrari n'a rien sécurisé du tout.
Bah, pour le coup, ils ont...
tu es en train de me dire que Ferrari... Enfin, Leclerc avait un contrat jusqu'en 2026, mais avait une option 2027-2028, donc pour les 2 prochaines saisons. Que là, Leclerc, il a prolongé jusqu'en 2028, ferme, mais que c'est lui qui a une option 2029-2030.
Ouais, donc, tout à fait. Non, t'as raison. Non, c'est plus dans l'aspect peut-être d'aller dans le sens de Leclerc pour le mettre au cœur du projet.
Oui, c'est plutôt ça.
Et ainsi, et on va dire l'aider à prendre la bonne décision après 2028.
Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il l'a dit en conférence de presse, il a eu des discussions avec d'autres écuries. Lesquelles vont
McLaren et Mercedes.
Cadillac, Audi.
Cadillac, Audi, je pense que pas mal. BYD, on sait pas, peut-être. mais tout ça pour dire qu'effectivement, Ferrari est pas capable de lui donner une voiture qui joue le championnat du monde plus que sur une saison. Enfin, sur une demi-saison. Donc à un moment donné, quand tu t'appelles Charles Leclerc, oui, bah ça, c'est quoi, c'est sa 8e saison chez Ferrari.
Ouais,
c'est Brice qui disait encore une fois hier en Autriche, Kimi Antonelli, à ce rythme-là, il aura plus de victoires que Charles Leclerc.
Ça, c'est fou ça.
Ce qui est une stat absolument fulgurante. Je sais même, j'ai même pas de mots tellement c'est violent. Donc effectivement, Ferrari tente de garder Charles Leclerc au final. C'est pour ça que probablement chez Leclerc, on a commencé à dire à Ferrari, vous êtes gentil avec votre contrat, mais en fait on va renégocier le contrat actuel. On vous prenez pas les options, on renégocie le contrat actuel pour un 2+2 avec un 2 ans ferme et puis un 2 ans où condition clause de performance. Si vous faites de la merde, c'est ciao.
Il va avoir 29 ans, Charles Leclerc, en octobre prochain.
Il passe vite ces années. Hein.
Eh ouais.
Oui, c'est vrai.
Parce que mine de rien, on se met du côté, on regarde le prisme Ferrari, mais même pour Charles Leclerc, c'est potentiellement aller. Bah oui. Là, t'arrives sur la deuxième partie de ta carrière, qui est même peut-être déjà bien entamée selon.
Imagine, Lewis Hamilton sera champion avec avant lui chez Ferrari.
Peut-être.
Ça aurait été. Oh.
C'est vrai beaucoup pour un seul homme.
Juste très rapidement, on n'en a pas parlé pendant la course. Je trouve que Ferrari, tu parlais tout à l'heure de la stratégie par rapport à Antonelli. Ferrari a facilité la tâche à Antonelli en arrêtant Leclerc aussitôt. Mm-hmm. Parce que pour moi, la stratégie, c'est on arrête Hamilton d'abord.
C'est vrai, t'as raison.
On essaie de mettre Antonelli dans le trafic, mais Leclerc, on va le pousser au maximum pour qu'au moment où Antonelli s'arrête, Leclerc il soit devant Antonelli. Ouais. Et en fait, même pas. Donc,
il aurait pu se faire pénaliser, hein, le père Leclerc, d'ailleurs, là-dessus. Le fait qu'il ait un petit peu ralenti, c'est quand ils font le double stack chez Ferrari.
Ah, oui. Les 10 voitures, là.
Voilà, exactement. Mmh. Le fait qu'il ralentisse.
Ouais,
lui était énervé. Je pense que le pragmatisme, c'était quand même lui changer les pneus quand
moi,
tu
je comprends pourquoi il fallait le faire entrer, mais il ne fallait pas faire entrer Leclerc à ce moment-là.
Tu penses?
Ah, bah oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une gestion, justement, des deux pilotes? On se dit, à la position Hamilton est devant.
C'est facile à dire après coup. Alors là, il y a une gestion des deux pilotes pour que Hamilton reste devant malgré sa pénalité. Ce que Leclerc ne comprend pas, et je me mets à la place de Leclerc, je suis totalement de son avis. Mais maintenant, Leclerc ne rentre pas. Mmh. Restart. Leclerc se plante. On est tous là à dire Ferrari, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû l'arrêter. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté?
C'est
un arrêt gratuit.
Comme d'hab.
On n'aurait pas eu tout ce drama autour de Brembo.
Peut-être que c'était Hamilton qui se mettait dedans, on ne sait pas. Ou Antonelli.
Non, parce que Hamilton, il a pas de problème de frein, lui.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Ça, franchement, cette histoire du frein, ça veut pas. C'est un feuilleton.
Hamilton, deuxième du championnat du monde. Ça n'était pas arrivé depuis
2021.
Abu Dhabi 2021.
Wow, c'est fou.
Aïe.
T'imagines?
Non, mais ça, c'est franchement, ça aussi, c'est un des symboles de Monaco. Ouais. Juste une petite déclaration rapidement, c'est en conférence de presse hier. Lewis Hamilton, il est avec Andrea Kimi Antonelli et Isaac Hadjar. Il dit, en cumulant l'âge de Kimi et celui d'Isaac, on n'atteint même pas le mien. Pourtant, je me sens plus frais que jamais.
Bah écoute, merci Kimka. Hein.
Et, ouais, qui a volé la serviette d'Anthony. Ça, c'est
l'image est folle.
Ouais, l'image, elle est folle.
C'est exceptionnel. C'est quand tu arrives, tu sors de ta voiture, tu as toujours le petit support, la serviette et un peu d'eau pour s'hydrater. Normalement, tous les trois premiers ont une serviette. Mmh. Antonelli arrive, il a pas de serviette. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo là qui est sortie ce matin. Bah, Kim Kardashian en passant, elle a pris la serviette. Je pense qu'elle pensait, bon, peut-être que c'était pour les VIP, que sais-je.
On vit une époque formidable. Une petite lingette, merci beaucoup, parce qu'il faisait chaud. C'est sympa d'y repenser, lance pour le vainqueur, en fait. Mais bon, c'est pas grave.
Du coup, Antonelli, pas de serviette. Tant pis.
C'est quand même hallucinant, ce startiste.
8e podium pour Hamilton à Monaco. Il égale Ayrton Senna.
Incroyable. Exceptionnel, en tout cas, Lewis Hamilton, on l'a dit, donc deuxième au championnat du monde. Les gars, dernier enseignement, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette saison, mais il serait temps, et l'actualité nous y oblige presque, le rêve brisé de Pérez et de Cadillac. Pérez pénalisé, Alonso miraculé. Il y avait le pari de la stratégie pour Cadillac, parti en soft, prendre les médiums au quatrième tour et en profiter pour purger justement sa pénalité. Il a profité alors du clean air, il est remonté au gré des événements, et puis ça montre aussi les progrès de son auto de la Cadillac. Deux pénalités pour des problèmes d'emplacement sur la grille. Ça, c'est ce qui fait un petit peu mal au cœur pour Sergio Pérez. Au départ, il se met déjà sur l'emplacement de Bortoleto qui partait depuis la voie des stands. Sur le deuxième départ arrêté, il dépasse là cette fois-ci les limites imposées par l'emplacement, même s'il conteste bien sûr sur les images. Bref, il est pénalisé après l'arrivée. Alonso en profite. Pénalité après la course. Cadillac ne marquera pas son premier point en Formule 1. Quelle occasion manquée. Alonso, qui a passé la majeure partie de la course en soft, gagne 10 places et marque le premier point d'Aston Martin à la surprise générale. Et puis, il fallait quand même l'évoquer, cette alerte enlèvement qui a popé sur nos écrans depuis de nombreuses semaines. Où est passé Valtteri Bottas, mené 4-2 en qualif par Pérez, pulvérisé de 5 dixièmes en qualif à Monaco. Ça fait tâche après les 8 dixièmes notamment infligés à Montréal. Et puis, on le rappelle, lui qui a abandonné, les freins en feu. Il est bon ce début de saison de Sergio Pérez. C'est vraiment dommage que ce point ne soit pas venu récompenser les efforts du Mexicain.
Moi, je trouve que ça reste impressionnant pour une équipe qui a tout construit de A à Z, contrairement à Audi qui a racheté Sauber, donc ils partent pas de rien. Mais pour une écurie dans l'ère moderne de la Formule 1 et As, ils ont 218 Grands Prix ou je sais plus combien, ce qui commence à faire quand même pas mal.
Beaucoup, ouais, bien sûr.
Je trouve qu'ils s'en sortent très bien, sachant que je suis pas sûr qu'ils achètent autant de composants que As le faisait à l'époque quand ils sont arrivés en Formule 1 avec Ferrari. Oui, il y a encore plein de problèmes. Oui, il y a encore plein de problèmes sur l'exécution des week-ends, sur l'opérationnel, sur des suspensions qui cassent à Montréal, sur des freins qui ont les mêmes problèmes sur les deux voitures. Oui, il y a plein de problèmes.
Brembo, les freins à Cadillac ?
Probablement. Brembo équipe la majorité, je crois, des équipes en F1, il me semble.
Jusqu'à quand ?
Ça risque d'être. Mais on reviendra sur les Brembo après. Mais juste pour finir sur Cadillac un peu rapidement, moi je reste quand même assez impressionné parce que c'est une équipe qui recrute encore ses ingénieurs. Parce que c'est pas fini. Ils sont encore en train de construire des bureaux. Là, je connais un ingénieur qui est dans un préfabriqué à faire l'aileron avant. Bon. En face, ils ont l'usine Aston Martin flambant neuve. Hein. Juste pour qu'on comprenne un peu, c'est vraiment le. Tu sais, c'est le. Comment ça s'appelle le bidonville face à la nouvelle ville. Hein. Globalement,
la mégalopole.
Je suis un peu dur, évidemment, j'exagère, hein, mais on est sur quelque chose comme ça. Et mine de rien. Week-end après week-end, ils alignent les deux voitures. Les voitures roulent, elles progressent. Pérez se battait avec les voitures de devant en fin de peloton, mais il se battait avec les voitures de devant à Montréal. Là, ici, ça se retrouve positionné pour jouer potentiellement la P10. Bon, il y a pénalité et ça, c'est dommage, mais bravo! Putain, bravo! C'est pas encore là, ça va mettre encore du temps, mais bravo! Moi, je chapeau.
Surtout que Pérez n'est pas loin de la Q1 en fait. Moi, pour moi,
de sortir de la Q1,
de se retrouver en Q2 puisqu'il part 18e, il a moins d'un dixième de la 16e place de Bortoleto. Donc non, moi je te rejoins, je plus sois ce que tu dis justement sur la construction, à quel point c'est compliqué. On a connu HRT, Marussia, etc. On a vu à quel point le rythme était différent, mais ce qui est normal lorsque tu débats. Et franchement, ils ont réussi à rendre une voiture compétitive dans le monde Formule 1, pas compétitive pour les résultats,
en faisant tout eux-mêmes entre guillemets, exactement, en faisant beaucoup de choses eux-mêmes, là où As c'était Dallara qui fournissait quand même la monocoque, qui faisait tout l'aéro, c'est un assemblage, c'est de la Formule 1 low cost entre guillemets à l'époque, tu vois, et là effectivement ils construisent tout. Excuse-moi Hamza.
Non mais c'est ça, et te retrouver, c'est bête, mais comment faire une course? Comment établir une stratégie?
Mais bien sûr.
Comment rebondir aux situations de course pour modifier sa stratégie? Et en fait, c'est une découverte totale course après course. C'est une écurie qui apprend et qui n'est pas dernière du championnat. Enfin, qui n'est pas dernière du championnat. Qui n'est pas la dernière force en termes de performance pure du championnat. Aujourd'hui, Cadillac, en termes de rythme, c'est mieux qu'Aston Martin. Avec Fernando Alonso, avec Adrian Newey, avec tout ce que tu veux.
Mais Aston Martin a marqué des points ce week-end, Alonso a fait le taf.
Non mais franchement, je suis bluffé effectivement par ce que réalise Cadillac. Alors, le point retiré à Sergio Pérez, juste très rapidement revenir, moi je trouve extrêmement sévère la pénalité donnée à Nico Hülkenberg. 10 secondes pour justement permettre à Pérez de rentrer dans les points, puis Pérez qui se fait éjecter pour avoir Alonso. Je ne comprends pas la pénalité pour Hülkenberg. Voilà, tu roules au ralenti dans une zone, le virage le plus lent du championnat du monde. Mais bon, tant mieux pour d'abord Pérez, puis finalement Fernando.
Ouais, mais c'est un accrochage, même s'il peut. Ouais,
en fait, tu juges la conséquence d'abord Carlos Sainz plutôt que l'accrochage en lui-même.
Pour moi, c'est un incident de course plus qu'autre chose. Mais je suis d'accord, mais c'est un peu sévère. Je reconnais.
ce que vous disiez est intéressant sur, sur Cadillac. On a eu l'occasion de rencontrer l'un des ingénieurs français de Cadillac, notamment WEC, qui a participé au 24 heures de Mans et qui expliquait qu'en fait, la maison mère de Cadillac Motorsport aux États-Unis, c'est un bureau d'études avec 25 personnes. Avant, ouais, bien sûr, ouais, qui décide de l'entrée en Formule 1. Donc c'est, ça montre en effet, vous l'avez dit, ce gap assez incroyable. Et par rapport à la sanction de Sergio Pérez, juste très rapidement, une dernière déclaration. Sergio Pérez qui disait hier justement au diffuseur mexicain Fox Sports, enfin diffuseur au Mexique, pardon, il dit: nous avons regardé sous différents angles concernant sa pénalité sur l'emplacement sur le deuxième départ. C'est difficile à prouver d'avoir un seul, à prouver d'après un seul angle. Quand on regarde sous un angle, c'est clair, mais sous un autre, ça ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, peut-être aussi que les capteurs ont peut-être rendu service à cet effet-là. Et puis félicitations à Fernando Alonso, premier point pour Aston Martin. Franchement, on l'attendait pas après 6 courses, vu la poubelle qu'il se traîne chaque week-end. Le classement des pilotes et des constructeurs, les amis, le point comptable avant de refermer justement cette longue émission. On a décidé d'être assez prolixe, de prendre notre temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Andrea Kimi Antonelli, 66 points d'avance sur Lewis Hamilton, 68 sur George Russell. L'écart est désormais fait. Et puis on voit également dans ce top 10 la présence de deux Français, Isaac Hadjar à la 8e place, Pierre Gasly pardon, à la 10e. Les écarts qui montent, mais en tout cas cette hiérarchie, si on nous en avait parlé il y a je pense 2 ou 3 mois, on n'y aurait pas forcément cru. Puis quand on regarde le classement des écuries, des constructeurs, on se rend compte que Mercedes forcément a pris une large avance sur Ferrari. Je ne sais pas s'il y aura vraiment match dans ce... On attendra bien sûr les différents développements, mais je ne sais pas s'il y aura vraiment match en tout cas chez les constructeurs, parce qu'on voit des écarts aussi de plus en plus importants entre Ferrari et McLaren, et McLaren et Red Bull. On notera quand même que Alpine et Racing Bull font un carton plein dans ce week-end et marquent de gros points, moins que prévu pour Alpine finalement, après les différentes pénalités qui sont tombées au gré justement, et bien de cette fin de course. Seul Cadillac n'a pas marqué de points d'ailleurs parmi ses constructeurs. Voilà les amis, merci les gars, ça a été excellent. Merci. Cette discussion, franchement c'était complet, on est allé loin, on a disséqué.
On parlera des Brembo et des Carbon Industries la prochaine fois, parce que effectivement c'est pas une chose qui est nouvelle chez Lewis Hamilton. Ça date de 2014 où on parlait déjà de savoir si les freins allaient pas faire basculer le championnat du monde dans un sens ou dans l'autre de Nico Rosberg ou de Lewis Hamilton. Voilà.
Exactement,
on aura l'occasion d'en reparler.
Rendez-vous là lundi prochain, on sera avec toi mon Pierre, on sera avec Brice bien sûr pour débriefer le Grand Prix de Catalogne à Barcelone. Et mon cher Hamza, on va tous te regarder, tous t'écouter, et on sera là pour te suivre et te pousser, mon ami. Bonne Coupe du Monde et régale.
Merci beaucoup. N'oublie pas d'aller chez le coiffeur tous les 2-3 jours. Hein.
On va essayer. Ça repousse vite.
Surtout sous le soleil californien, méfie-toi. Passez une bonne journée, les amis. On attend vos commentaires et abonnez-vous à Paddock Pass. Ça se passe sur Instagram. On vous attend. Et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne RMC Sport. Ciao, ciao.